L'histoire d'un amour du Christ plus fort qu'aucune passion humaine, la petite voix de l'enfance de Sainte Thérèse de Lisieux. Voici la première partie d'une conférence de Mgr Guy Gaucher. Mgr Guy Gaucher est décédé en 2014 et il a été évêque auxiliaire de Bayeux et Lisieux, écrivain spirituel et grand connaisseur de la figure et de la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux. L'histoire d'un amour du Christ plus fort qu'aucune passion humaine, la petite voix de l'enfance de Sainte Thérèse de Lisieux, lecture commentée de quelques textes majeurs de Sainte Thérèse. Voici la première partie de cette conférence de Mgr Guy Gaucher.
Alors, ce qui est caractéristique chez cet enfant de 7 ans, Thérèse Martin, c'est une fin eucharistique très précoce. Or, nous sommes à une époque où la communion fréquente n'existe encore pas. D'ailleurs, Thérèse luttera à la fin de sa vie pour que la communion devienne plus fréquente. Au Carmel même, on ne communiait pas tous les jours, il fallait l'accord de la prière, l'accord du Père spirituel. Et alors, elle est très liée à sa petite sœur Céline, enfin petite sœur qui est plus grande qu'elle de 3 ans, et elles sont comme elle dit, elles sont sœurs d'âme. Et en 1880, Thérèse se réjouit grandement de la communion de Céline et elle dit que c'est un peu comme si elle faisait elle-même sa première communion. Elle reçoit ce jour-là, c'est très fort comme expression, elle reçoit ce jour-là autant de grâce qu'elle en a reçu pour sa propre communion que nous verrons tout à l'heure. Et elle est comme si c'était elle-même qui avait reçu le Christ dans cette communion. Malheureusement, elle est beaucoup trop jeune et il faudra qu'elle attende l'âge de 11 ans pour pouvoir communier. Alors, elle se demande si, par exemple, elle ne pourrait pas se glisser au milieu des gens en allant à la communion. Et puis, on ne la verrait pas parce qu'elle est toute petite. Alors, évidemment, sa sœur Marie lui dit que ça ne se fait pas, une chose comme ça. Une autre fois, elle rencontre vraiment par hasard l'évêque de Bayeux qui passe par Lisieux et elle veut lui courir derrière pour lui demander la permission de faire sa communion plus tôt. Mais il y avait justement un décret du synode de Bayeux qui empêchait à 2 jours près qu'elle puisse faire sa communion. Il y aura même une démarche de l'oncle Guérin, le pharmacien de Lisieux, auprès de l'évêque, mais il sera poliment renvoyé et Thérèse devra donc attendre le 8 mai 84, elle a 11 ans à ce moment-là, pour faire sa communion. Alors donc, il y a une préparation extrêmement lointaine qui a duré 4 ans, parce qu'elle a entendu dire, pendant que sa sœur Pauline préparait Céline sur ses genoux le soir, de temps en temps elle écoutait, mais une autre fois on lui disait « va-t'en parce que tu es trop petite ». C'est assez typique de Thérèse, elle est toujours trop petite, ça aura un sens très grand plus tard dans sa petite voie d'enfant spirituel. Elle entend dire qu'à partir de sa première communion, il faut changer de vie. Et donc elle dit, eh bien je vais changer de vie, on ne sait pas vraiment comment ça s'exprime chez elle, mais elle pense déjà à recevoir Jésus à ce moment-là. La deuxième préparation est beaucoup plus proche, c'est quand la date est fixée, Pauline, qui est sa sœur, qui est carmélite, lui prépare un petit livre où elle va marquer une série de sacrifices, une série de prières qu'elle va faire, toute une comptabilité, si on peut dire, qui sera d'ailleurs à l'opposé de la spiritualité thérésienne beaucoup plus tard, mais dans lequel elle entre avec beaucoup de force et de détermination. Et elle fait des milliers de sacrifices et de prières qu'elle marque sur son petit carnet. La troisième préparation, c'est celle de sa sœur Marie, Pauline étant donc au Carmel. Sa sœur Marie, alors cette fois, la prend le soir sur ses genoux et lui parle de la communion, la prépare, et elle lui donne un certain nombre d'éléments fondamentaux, mais Thérèse aura une autre préparation beaucoup plus proche, où pour la première fois, elle sera pensionnaire, il y a une retraite de 3 jours. Et elle va donc au pensionnat des bénédictines de Lisieux, passer 3 jours, elle est encore fragile, elle a été Elle a été malade très gravement, elle était donc encore surveillée de très près, et on lui permet de revoir quand même sa famille, malgré que la retraite est fermée. Et arrive enfin ce qu'elle appelle le beau jour entre les jours, le beau jour entre les jours, arrivant enfin. Quels ineffables souvenirs ont laissé dans mon âme les plus petits détails de cette journée du ciel. Il faut dire que pendant la préparation de la retraite à l'école, il y a eu les enseignements de l'abbé Domin, qui était l'aumônier du Carmel. Et nous avons un petit carnet de Thérèse où elle a pris des notes, et il est assez étonnant de voir les thèmes abordés par le prêtre pour ses enfants, qui étaient très peu nombreuses, puisqu'au total, elles étaient sept, donc c'est un tout petit groupe. Et les thèmes abordés, ce sont des thèmes assez terrorisants sur le péché mortel, sur la mort. Il dit même peut-être qu'il y en a une qui finira par sa retraite, sur l'enfer, etc. Et très curieusement, Thérèse ne va pas réagir en ce sens. Elle va écrire, alors en 1895, évidemment, le récit de sa communion tel que maintenant je vous le lis. Et ça n'a aucun rapport avec la préparation qu'elle a pu avoir avec l'abbé Domin. Voici ce qu'elle dit. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimé et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. C'est donc un don réciproque, c'est le don du Christ et le don de Thérèse. On peut dire que c'est son premier acte d'offrande qu'elle fait d'elle-même. Il n'y eut pas de demande, pas de lutte, de sacrifice. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. Depuis longtemps, ça nous fait remonter à quand elle avait 7 ans au moins. Et tout le temps de ce rapport de prière qu'il y a eu entre Jésus. Alors pourquoi la pauvre petite Thérèse? Eh bien, c'est que justement, elle a été très malade et qu'elle a gardé des peines d'âme qui vont durer 4 ans et 5 ans, qui seront d'ailleurs éliminées pendant une année, pendant ce temps de ce temps eucharistique. Ce jour-là, ce n'était plus un regard, mais une fusion. Ils n'étaient plus deux. Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Jésus restait seul. Il était le maître, le roi. Remarquons que jusque-là, le roi, c'était pour elle son père et que maintenant, c'est le Christ. Thérèse ne lui avait-elle pas demandé de lui ôter sa liberté? Car sa liberté lui faisait peur. Elle se sentait si faible, si fragile, que pour jamais elle voulait s'unir à la force divine. Alors ça, c'est extrêmement important, la fragilité et la faiblesse de Thérèse, qu'elle ressentira toute sa vie, mais qui est un échange avec la force divine qu'on retrouvera dans la conversion de Noël 86. Sa joie était trop grande, trop profonde, pour qu'elle pût la contenir. Des larmes délicieuses l'inondèrent bientôt, au grand étonnement de ses compagnes, qui plus tard se disaient l'une à l'autre, pourquoi donc a-t-elle pleuré? N'avait-elle pas quelque chose qui la gênait? Mais non, c'était plutôt de ne pas avoir sa mère auprès d'elle, la mère qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, ou sa sœur qu'elle aime tant et qui est carmélite, Pauline, qui était entrée au Carmel et dont l'entrée au Carmel avait provoqué un vrai drame pour Thérèse et le déclenchement de sa maladie, perdant sa deuxième mère, celle qu'il avait formée. Elle ne comprenait pas, dit Thérèse, que toute la joie du ciel venant dans un cœur, ce cœur exilé ne puisse la supporter sans répandre des larmes. Oh non, l'absence de maman ne me faisait pas de peine le jour de ma première communion. Le ciel n'était-il pas dans mon âme et maman n'y avait-elle pas pris place depuis longtemps? Donc là, il y a toute une communion des saints extrêmement forte chez elle, elle se rend compte qu'elle ne peut. Recevant Jésus, elle reçoit le ciel, et recevant le ciel, elle reçoit, si on peut dire, aussi sa mère. Ainsi, en recevant la visite de Jésus, Je recevais aussi celle de ma mère chérie qui me bénissait, se réjouissant de mon bonheur. Je ne pleurais pas l'absence de Pauline. Sans doute j'aurais été heureuse de la voir à mes côtés, mais depuis longtemps mon sacrifice était accepté. En ce jour-là, la joie seule remplissait mon cœur. Je m'unissais à elle qui se donnait irrévocablement à celui qui se donnait si amoureusement à moi. Remarquant tous les mots de l'amour, du baiser, de se donner amoureusement à moi, etc. L'après-midi, ce fut moi qui prononçai l'acte de consécration à la Sainte Vierge. Il était bien juste que je parle au nom de mes compagnes, à ma mère du ciel, moi qui avais été privé si jeune de ma mère de la terre. Je mis tout mon cœur à lui parler, à me consacrer à elle, comme une enfant qui se jette entre les bras de sa mère et lui demande de veiller sur elle. Il me semble que la Sainte Vierge dut regarder sa petite fleur et lui sourire. N'était-ce pas elle qui l'avait guérie par un visible sourire? Allusion à la guérison du 13 mai 1883, où Thérèse était guérie par la Vierge du sourire d'une maladie vraiment mystérieuse qui la menait très loin, aux portes de la mort ou de la folie. Au soir de ce beau jour, je retrouvais ma famille de la terre. Déjà le matin après la messe, j'avais embrassé papa et tous mes chers parents, mais alors c'était la vraie réunion. Papa, prenant la main de sa petite reine, se dirigea vers le Carmel. Alors je vis ma Pauline devenue l'épouse de Jésus, et je la vis avec son voile blanc comme le mien et sa couronne de roses. Ah, ma joie fut sans amertume, j'espérais la rejoindre bientôt et attendre avec elle le ciel. Thérèse, depuis l'âge de 9 ans, pense au Carmel. Elle pense, quand Pauline y est entrée, elle s'est fait expliquer ce qu'était le Carmel et elle a décidé, elle a rencontré même la mère prieure, qu'elle entrerait au Carmel le plus tôt possible, bien qu'on ne prenne pas de postulante de 9 ans, et que ce n'est pas pour Pauline, évidemment, qu'elle irait au Carmel, mais pour Jésus seul. Le lendemain de ma première communion fut encore un beau jour, mais fut empreint de mélancolie. La belle toilette que Marie m'avait achetée, tous les cadeaux que j'avais reçus ne me remplissaient pas le cœur. Il n'y avait que Jésus qui put me contenter. J'aspirais après le moment où je pourrais le recevoir une seconde fois. Environ un mois après ma première communion, j'allais me confesser pour l'ascension et j'osais demander la permission de faire la Sainte Communion. C'était la coutume à l'époque qu'il fallait avoir la permission du confesseur. Contre toute espérance, monsieur l'abbé, c'est monsieur l'abbé Domain, me le permit et j'eus le bonheur d'aller m'agenouiller à la sainte table entre papa et Marie. Quel doux souvenir j'ai gardé de cette seconde visite de Jésus. Mes larmes coulèrent encore avec une ineffable douceur. Je me répétais sans cesse à moi-même ces paroles de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Galates 2:20. C'est un texte évidemment très fort pour une enfant si jeune, mais elle se le répète ainsi intérieurement, sans arrêt. Depuis cette communion, mon désir de recevoir le bon Dieu devint de plus en plus grand. J'obtins la permission de la faire à toutes les principales fêtes. La veille de ces heureux jours, Marie me prenait le soir sur ses genoux et me préparait comme elle l'avait fait pour ma première communion. Je me souviens qu'une fois, elle me parla de la souffrance, me disant que je ne marcherais probablement pas par cette voie, mais que le bon Dieu me porterait toujours comme une enfant. C'était une prédiction complètement fausse, car Thérèse, au contraire, connaîtra la souffrance, elle l'a déjà connue, tout enfant, une sorte de profonde purification qui s'est faite par ses peines d'âme après sa maladie. Et le lendemain après ma communion, les paroles de Marie me revinrent à la pensée. Je sentis naître en mon cœur un grand désir de la souffrance et en même temps l'assurance que Jésus me réservait un grand nombre de croix. Je me sentis inondé de consolations si grandes que je les regarde comme une des grâces les plus grandes de ma vie. La souffrance devint mon attrait, elle avait des charmes qui me ravissaient sans les bien connaître.
Qu'est-ce qui peut justifier qu'une enfant de 9 ans disent souhaiter souffrir.
Je dirais que c'est presque au-delà d'elle-même. C'est pas une réflexion intellectuelle, parce qu'elle va le dire ensuite. Elle va justement dire qu'elle répétait, je vais vous lire le texte, hein, « Jusqu'alors, j'avais souffert sans aimer la souffrance. Depuis ce jour, je sentis pour elle un véritable amour. Je sentis le désir de n'aimer que le bon Dieu, de ne trouver de joie qu'en lui. » Donc, l'amour, là, est lié, enfin, la souffrance est liée à l'amour, à la ressemblance, comme elle dira. Elle est déjà à la suite de Jésus marchant enfin, vers la rédemption, vers la croix. Souvent, pendant mes communions, alors ça, je répétais ces paroles de l'imitation à Jésus-Christ, qui est un de ses livres de chevet, qu'elle sait presque par cœur. Alors ça, c'est très curieux. « Ô Jésus, douceur ineffable, changez pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. » C'est le livre 3 du chapitre de l'imitation. « Cette prière sortait de mes lèvres sans effort, sans contrainte. Il me semblait que je la répétais, non par ma volonté, mais comme une enfant qui redit les paroles qu'une personne amie lui inspire. » Alors, c'est assez typique ceci, c'est qu'il y a une espèce d'au-delà de Thérèse, une espèce d'intuition intérieure qui fait que, pour elle, l'amour veut ressembler à l'aimer. Et que si elle aime le Christ qui a été crucifié, il faut qu'elle suive ce chemin. Mais ce n'est pas encore, réfléchi, si on peut dire. C'est une sorte d'instinct, d'intuition,
de désir
très fort, d'imitation de Jésus-Christ, c'est le cas de dire. Alors Thérèse continue son texte, et voici ce qu'elle dit. « Peu de temps après ma première communion, j'entrai de nouveau en retraite pour ma confirmation. Elle fut confirmée par Monseigneur Hugonin, évêque de Bayeux, le samedi 14 juin 1884. Je m'étais préparé avec beaucoup de soin à recevoir la visite de l'Esprit-Saint. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas une grande attention à la réception de ce sacrement d'amour. » Alors ça, c'est extrêmement...
C'est une modernité...
Moderne,
extraordinaire.
Parce que, justement, la confirmation passait presque inaperçue, que... Pour elle, c'est vraiment la visite de l'Esprit-Saint et que c'est le sacrement de l'amour. Et elle dit alors, ordinairement, on ne faisait qu'un jour de retraite pour la confirmation. Mais Monseigneur, n'ayant pu venir au jour marqué, j'eus la consolation d'avoir 2 jours de solitude. Pour nous distraire, notre maîtresse nous conduisit au mont Cassin. C'était une petite colline de l'école des Bénédictines. Et là, je cueillis à pleine main de grandes pâquerettes pour la fête Dieu. Ah, que mon âme était joyeuse. Comme les apôtres, j'attendais avec bonheur la visite de l'Esprit-Saint. Je me réjouissais à la pensée d'être bientôt parfaite chrétienne et surtout à celle d'avoir éternellement sur le front la croix mystérieuse que l'évêque marque en imposant le sacrement. Enfin, l'heureux moment arriva. Je ne sentis pas un vent impétueux au moment de la descente du Saint-Esprit, mais plutôt cette brise légère dont le prophète Élie entendit le murmure sur le mont Horeb. N'oublions pas qu'elle écrit ça en 95, qu'elle est carmélite, et que Élie est le patron, si on peut dire, du Carmel, et elle se souvient de la rencontre du prophète Élie avec Dieu. Et alors, nous revenons à la souffrance, car elle dit, en ce jour, donc en ce jour de 84, je reçus la force de souffrir. Car bientôt après, le martyre de mon âme devait commencer. Ce fut ma chère petite Léonie qui me servit de marraine. Elle était si émue qu'elle ne put s'empêcher ses larmes de couler tout le temps de la cérémonie. Avec moi, elle reçut la Sainte Communion, car j'eus encore le bonheur de m'unir à Jésus en ce beau jour. Après ces délicieuses et inoubliables fêtes, ma vie rentra dans l'ordinaire. C'est-à-dire que je dus reprendre la vie de pensionnaire, en fait c'est la vie de demi-pensionnaire, qui m'était si pénible. Car Thérèse a toujours vécu ses 5 années d'école comme les 5 années les plus tristes de sa vie. Alors qu'elle dit que souvent, l'école c'est le bon moment, on se fait des amis, etc. Il y a là un problème important, c'est qu'elle a vécu depuis la mort de sa mère, isolée dans sa famille. Elle est assez inapte aux relations sociales. Elle est un petit peu persécutée par des filles plus grandes qu'elle. Et elle ne retrouve sa joie et sa gaieté qu'en rentrant chez elle. Ce qui est bien gênant et qui est un handicap très fort par rapport à ce qu'elle vivra plus tard, par rapport à la vie communautaire et surtout à une entrée très précoce au Carmel. C'est sûr qu'il y a là ce que les médecins psychiatres ont pu appeler une sorte de névrose infantile due à une régression par rapport à la mort des mamans, et que Thérèse aura, je dirais, sera un mauvais départ dans la vie. Et ce mauvais départ dans la vie, cette difficulté dans la vie, va durer 10 ans, jusqu'à sa conversion de Noël 86. Mais ce qui est quand même fondamental, c'est que, à travers tout cela, le Seigneur travaille et fait toute une évolution en Thérèse qui fait que sa vie spirituelle se développe quand même si elle est freinée par ses difficultés intérieures. Il me fallait me remettre en contact avec des élèves bien différents, dissipés, ne voulant pas observer la règle, et cela me rendait bien malheureuse. J'étais d'un caractère gai, mais je ne savais pas me livrer au jeu de mon âge. Thérèse disait tout à l'heure, « Je reçus la force de souffrir, car bientôt le martyr de mon âme devait commencer. » De quoi s'agit-il? Eh bien, un peu plus loin, elle en parle. « L'année qui suivit ma première communion se passa presque tout entière, sans épreuve intérieure pour mon âme. Ce fut pendant ma retraite de seconde communion, c'est-à-dire en avril-mai 1885, que je me vis assailli par la terrible maladie des scrupules. Il faut avoir passé par ce martyr pour le bien comprendre. Dire ce que j'ai souffert pendant 1 an et demi me serait impossible. Toutes mes pensées et mes actions les plus simples devenaient pour moi un sujet de trouble. Je n'avais de repos qu'en les disant à Marie, sa sœur aînée, ce qui me coûtait beaucoup car je me croyais obligé de lui dire les pensées extravagantes que j'avais d'elle-même. Aussitôt que mon fardeau était déposé, je goûtais un instant de paix, mais cette paix passait comme un éclair, et bientôt mon martyre recommençait. Quelle patience n'a-t-il pas fallu à ma chère Marie pour m'écouter sans jamais témoigner d'ennui. À peine étais-je revenu de l'abbaye, c'est-à-dire de l'école, qu'elle se mettait à me friser pour le lendemain, car tous les jours pour faire plaisir à papa, la petite reine avait les cheveux frisés, au grand étonnement de ses compagnes et surtout des maîtresses qui ne voyaient pas d'enfants si choyés de leurs parents. Pendant la séance, je ne cessais de pleurer en racontant tous mes scrupules. À la fin de l'année, Céline, ayant fini ses études, revint à la maison et la pauvre Thérèse, obligée de rentrer seule en octobre 85 à l'école, ne tarda pas à tomber malade. Le seul charme qui la retenait en pension, c'était de vivre avec son inséparable Céline. Sans elle, jamais sa petite fille ne put y rester. Je sortis donc de l'abbaye à l'école à l'âge de 13 ans et je continuai mon éducation en prenant plusieurs leçons par semaine chez Madame Papineau.
Elle ne s'étend pas tellement sur ses souffrances. Elle dit qu'elle a beaucoup souffert. Que ses scrupules l'assaillaient, qu'elle avait besoin de se libérer.
Oui.
Mais elle n'en dit pas beaucoup plus.
Non, elle ne raconte pas tellement. Et elle dit simplement qu'elle disait, avant d'aller se confesser, elle disait ses péchés, ses scrupules à Marie qui faisait le tri.
Ah oui, c'est
ça. Et Marie faisait le tri et elle dit, mon confesseur n'a jamais su que j'étais scrupuleuse. Donc elle avait là une obéissance très forte déjà, qui était une bonne méthode pour quelqu'un qui était scrupuleuse. Alors, les scrupules ont démarré à la deuxième retraite parce que les thèmes de la deuxième retraite de l'abbé Domain étaient très proches de la première. Et la première, c'était une vraie grâce qu'il ne se passe rien, mais c'était encore... Nous sommes là dans toute une époque où la prédication est tout à fait étonnante concernant l'enfer, le péché mortel, etc. Ce qui fait que les gens étaient extrêmement scrupuleux et que Thérèse n'a pas échappé à cette réalité très fréquente. Tout autour de Thérèse, il y avait beaucoup de scrupuleux et il ne faut pas s'étonner en fonction des prédications qu'il y avait.
En même temps, elle vit quelque chose qui est tout à fait particulier. Elle a à domicile quelqu'un qui est son accompagnatrice, finalement. Ou elle qui l'aide à faire le tri entre ce qui est de l'ordre du péché et ce qui n'est pas d'ordre du péché.
Oui, elle est aidée, là, ce moment-là. Elle est aidée. Mais alors, justement, il va lui arriver quelque chose de terrible, c'est que Marie va entrer au Carmel aussi. Donc, perte de la troisième mère et perte de la confidente. Et là, elle est au fond du trou. Et jamais Thérèse n'a été plus bas qu'en octobre 86, quand Marie entre au Carmel, car elle n'a plus personne. Alors son réflexe à ce moment-là, c'est curieux, c'est non pas se tourner vers Jésus, non pas de se tourner vers Marie qui l'a déjà guérie, mais de se tourner vers ce qu'elle appelle ses petits frères du ciel. Les Martins ont perdu 4 enfants sur 9, elles ont perdu 2 garçons et 2 petites filles presque à la naissance, sauf une fille qui est morte à 5 ans, et elle dit, étant la plus petite, je me tournais vers eux, les suppliant de m'aider. Et elle est exaucée. Et ses scrupules disparaissent vers novembre 86, ce qui ne veut pas dire que tout est arrangé, puisqu'il va falloir la conversion de Noël 86. Mais là, n'ayant plus personne, elle est quand même aidée par le ciel, et elle a conscience qu'au ciel, les saints innocents, comme elle les appelle, veillent sur elle. Donc, communion des saints entre enfants.
Une conscience de la communion des saints
déjà très forte. Oui, ça, toujours, parce qu'elle est très orientée vers le ciel. Ouais. Alors, il y a une Thérèse qui est absolument inattendue quand on pense à elle, à cette fille forte qui est devenue la plus grande sainte des temps modernes. C'est Thérèse, justement, en cette fin d'année 86, où elle reconnaît que si le ciel me comblait de grâce, ce n'était pas parce que je les méritais, j'étais encore bien imparfaite. J'avais, il est vrai, un grand désir de pratiquer la vertu, mais je m'y prenais d'une drôle de façon. En voici un exemple. Étant la dernière, je n'étais pas habituée à me servir. Céline faisait la chambre où nous couchions ensemble, et moi, je ne faisais aucun travail de ménage. Après l'entrée de Marie au Carmel, il m'arrivait quelquefois, pour faire plaisir au bon Dieu, d'essayer de faire le lit. Vous voyez que ça ne va pas très loin. Ou bien d'aller, en l'absence de Céline, rentrer le soir ses pots de fleurs, comme je l'ai dit. C'était pour le bon Dieu tout seul que je faisais ces choses. Ainsi, je n'aurais pas dû attendre de merci des créatures. Hélas, il en était tout autrement, si Céline avait le malheur de n'avoir pas l'air d'être heureuse et surprise de mes petits services, je n'étais pas contente et le lui prouvais par mes larmes. Alors voici la définition qu'elle donne d'elle-même à ce moment-là. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute, au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine, et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles, et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Alors là, il y a vraiment une vision de la petite Thérèse Martin, tout à fait vraie et inattendue, mais qui est pourtant... La réalité, c'est qu'elle est d'une hypersensibilité et qu'évidemment, elle va le dire, tout ça est opposé à une entrée précoce au Carmel. C'est évident. C'est absolument clair qu'elle est tout faite pour ne pas y entrer dans cet état. Or, qu'est-ce qu'il faut qu'il y arrive ? Eh bien, il va arriver, on peut dire, ce qu'a appelé sa conversion et son miracle. Le Seigneur va agir juste à l'heure qu'il faut pour la changer. Remarquons au passage que toute la vie de Thérèse, à partir de 4 ans et demi, est une succession de guérisons intérieures, une succession de conversion intérieure qui vont l'amener à être pleinement dégagée et à pouvoir commencer très tôt ce qu'elle appellera sa course de géant, et donc à 15 ans, alors qu'elle ne vit que jusqu'à 24.
Et une guérison et une clairvoyance. Enfin, alors elle parle avec recul, là.
Elle parle avec recul, elle a 22 ans.
Il y a une définition tout à fait précise du personnage, là, qu'on vient d'écouter.
Mais elle a une lucidité sur elle-même formidable, ça c'est sûr. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Alors ça, c'est extrêmement important parce que il ne faudra pas confondre la petite voix d'enfant spirituel avec l'infantilisme. Elle a su ce que c'était que cet infantilisme, elle a su ce que c'était que cette hypersensibilité, et elle dit « Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël, Noël 86. » En cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte, Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Donc c'est un échange, ou admirable échange, comme dit la liturgie. La faiblesse de Thérèse est prise en charge par la force de Dieu. Et remarquons, nous allons le remarquer, c'est une grâce eucharistique encore, puisque c'est après la communion de la messe de minuit. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat. Vocabulaire guerrier, famille ses grands-pères étaient soldats, son père avait été enfant de troupe, bon, mais aussi vocabulaire carmélitain, car c'est le combat spirituel. Mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géant. Ça, c'est une citation du psaume 18. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement, ce qui justifia cette parole qui m'avait été dite, « Tu pleures tant dans ton enfance que plus tard, tu n'auras plus de larmes à verser. » Alors maintenant, elle raconte le fait. C'est un fait absolument, apparemment, dérisoire. C'est un petit fait de la vie courante. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir comment la grâce du Seigneur va se glisser dans une parole tout à fait anodine et changer complètement Thérèse. Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. Remarquons le vocabulaire, conversion et sortir de l'enfance. Donc, encore une fois, lorsqu'on parlera de l'enfance spirituelle, il ne faudra pas la confondre avec une enfance infantile dont Thérèse a eu l'expérience. Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. Je vous disais, grâce eucharistique, et toujours pour elle, l'Eucharistie est liée à la force et à la puissance. En arrivant au Buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de la famille. Ça, c'est remarquable parce que la plus petite de la famille, maintenant, elle a 14 ans, et on veut toujours la traiter comme un bébé. Et il y aura toujours une tendance à la traiter comme la plus petite et la petite dernière, et à ne pas la laisser grandir. Et il faudra qu'elle grandisse, je dirais, non pas à la force du poignet, mais en se laissant grandir par la force de Dieu. Et au Carmel encore, elle sera la dernière, et il faudra qu'elle trouve sa liberté pour pas être étouffée par ses sœurs. Papa aimait avoir mon bonheur, entendre mes cris de joie, en tirant chaque surprise et souliers enchantés, et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur, Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Oh Thérèse, me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur, d'un coup, juste le temps de monter cet escalier. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux, et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'est pour toujours qu'elle devait la conserver. Alors ça, c'est très fort, parce qu'elle a la lucidité au moment où elle écrit, qu'elle retrouve sa véritable personnalité de 4 ans et demi, pleine de vie, pleine de joie, pleine de force, et que ceci a été comme étouffé pendant 10 ans. Et que là, tout d'un coup, tout revient, tout remonte, et que c'est une véritable conversion, une véritable résurrection, une véritable conversion, un miracle. En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pêcheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Alors là, il y a eu toute une transformation intérieure formidable, c'est qu'elle était toute tournée vers elle-même, toute introvertie, et tout d'un coup, il y a un déblocage extrêmement fort qui fait que, comme elle dit, la charité, enfin le sens de l'amour de Dieu entre dans son cœur, qu'elle s'oublie pour faire plaisir, qu'elle découvre le bonheur, et qu'elle va entrer à fond, alors, dans sa vocation, il y a d'autres extraits là qui nous le montrent, dans sa vocation de carmélite, c'est-à-dire de donner sa vie pour la rédemption du monde, pour sauver les pécheurs.
Tout ce passage-là est absolument extraordinaire. Moi, j'ai été très touché par le souvenir, par l'émergence du souvenir d'un état qu'elle a connu, de quelque chose qui datait de 4 ans et demi, de l'âge de 4 ans et demi.
Oui.
Moi, je trouve ça très frappant, comme profondeur de la guérison intérieure chez cette toute jeune fille. Enfin, comme vous parliez de miracle, c'est effectivement ça.
Ah ben, elle le dira. Il y a un autre texte dans une lettre, beaucoup plus tardif, qui est encore un autre récit, à un de ses frères spirituels, l'abbé Bélière, je pense. Et elle raconte à peu près la même chose, mais avec du recul encore plus de... Nous sommes là en 1896. La nuit de Noël 1886 fut, il est vrai, décisive pour ma vocation. Mais pour la nommer plus clairement, je dois l'appeler la nuit de ma conversion. En cette nuit bénie dont il est écrit qu'elle éclaire les délices de Dieu même, Jésus, qui se faisait enfant par amour pour moi, daigna me faire sortir des langes et des imperfections de l'enfance. Il me transforma de telle sorte que je ne me reconnaissais plus moi-même. Sans ce changement, J'aurais dû rester encore bien des années dans le monde. Sainte Thérèse d'Avila, qui disait à ses filles « Je veux que vous ne soyez femme en rien, mais qu'en tout vous égaliez des hommes forts », Sainte Thérèse n'aurait pas voulu me reconnaître pour son enfant si le Seigneur ne m'avait revêtu de sa force divine, s'il ne m'avait lui-même armé pour la guerre. Donc toujours le combat spirituel qu'elle va inaugurer par son désir d'entrer au Carmel. Toute l'année 87 va être une année formidable pour elle, une année de développement intellectuel, spirituel, physique, à tout point de vue. Et c'est l'année du combat pour le Carmel. C'est-à-dire qu'ayant été guérie, elle peut enfin réaliser sa vocation. Et c'est à ce moment-là que, comme elle a dit, la charité entre dans son cœur et qu'a lieu la fameuse affaire Prancigny, c'est-à-dire de l'assassin qu'elle veut sauver et qu'elle sauvera par sa prière et son sacrifice. Oui.
En temps voulu, j'agirai vite. Il y a une espèce de concentration de l'œuvre de Dieu dans l'âme de Thérèse qui développe immédiatement les armes nécessaires au combat suivant, mais avec une maturité, une rapidité qui sont vraiment surprenantes.
Alors là, vous définissez toute la vie de Thérèse. Car ce qui est passionnant dans l'histoire tout entière jusqu'à 24 ans, c'est de voir combien Dieu ne perd pas de temps, combien il travaille dans ce temps, et combien chaque chose arrive à sa place. Et combien il y a une espèce de, non pas de hâte, parce que c'est pas de la hâte, c'est marcher au pas de Dieu, et de voir qu'à chaque instant, une chose arrive qui semble tout à fait nécessaire et qui va l'amener à ce qu'elle appelle cette cour de géant, c'est-à-dire vraiment au sommet de la sainteté et au sommet du don d'elle-même, au sommet de la mort, ce qu'elle appelle la mort d'amour, mais qui est la mort de Jésus sur la croix. Hein? Et ça, c'est vraiment sa particularité d'être allé aussi vite dans la fidélité aux grâces qui arrivent au bon moment.
On a quitté l'infantilisme.
Ah, complètement, radicalement. Complètement, radicalement.
Et l'image qu'a Thérèse dans un certain nombre d'esprits, encore aujourd'hui, c'est de quelqu'un, effectivement, un peu infantile, avec des roses et des petits oiseaux, je veux dire.
Oui, mais parce que Thérèse, on croit la connaître, mais Thérèse est méconnue. Thérèse, bon, il faut, pour la connaître, il faut la lire. Il faut la lire et voir ce qu'il y a que... Dans chacune de ces affirmations, il y a une vérité profonde, car tout part de la réalité, tout part du réel, tout part de... Alors, les roses de Thérèse, bon, il faudra en parler, mais les roses de Thérèse, si vous lisez la rose effeuillée, on n'a plus du tout envie de sourire, parce que ce qu'elle dit de la rose, c'est ce qu'elle est en train de vivre, c'est-à-dire en train de mourir pour Jésus, le don de sa vie. Et alors, l'iconographie n'a pas aidé les choses, mais il faut aller au-delà. Et d'autre part, elle explique dans son manuscrit B que la pluie de roses qu'elle fera tomber sur le monde, ce ne sont pas des roses qu'elle jette comme ça, ce sont toutes les petites actions de sa vie, toute sa vie ordinaire, sa vie cachée, qu'elle donne à Jésus qui touche le crucifix et qui donne une valeur universelle aux actions qu'elle fait. Ce n'est pas elle qui donne des grâces, c'est l'action de Jésus en croix qui se répercute sur le monde et qui donne des grâces au monde. Ça, c'est extrêmement important. Et là, l'iconographie s'est souvent trompée parce qu'on voit Thérèse jeter ses roses directement. Non, ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Ces roses sont d'abord des roses qui touchent Jésus en croix.
Il n'y a pas d'amour perdu, mais c'est l'amour de Jésus.
Toujours, oui. Alors, Thérèse continue. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, drôle de manière de s'exprimer, évidemment, parce qu'on n'a pas de photographie de Jésus en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur « J'ai soif ». C'est le texte de Jean 19, 28. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à moi, à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. La charité qui est entrée dans son cœur fait que l'amour de Dieu et l'amour des autres s'identifient et que cet amour des autres va se développer alors qu'elle était jusque-là tournée sur elle-même. Ce n'étaient pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs, je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Parce qu'elle dira qu'elle entrera au Carmel pour prier dans les intentions du Carmel, à la fois pour les prêtres, c'était une des intentions de Thérèse d'Avila, et pour les pécheurs, et surtout les grands pécheurs. Et là encore arrive à son heure quelque chose, car afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. C'était Pranzini, il avait tué deux femmes et une petite fille. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priai Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même dans la crainte d'être obligé d'avouer que c'était pour Pranzini, le grand criminel. Je sentis au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Alors là, il nous semble que nous sommes déjà en 1895 dans la petite voie qui est définie précisément par la confiance totale dans l'amour miséricordieux. Et déjà à ce moment-là, elle l'éprouve. Alors à une espèce de culot spirituel formidable, mais je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Donc c'est tout à fait étonnant, je demande de signe. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement et que vois-je? Ah, mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé, il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par trois fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leurs souillures, et l'élève de mon premier enfant, étrange dénomination pour Pranzini, allèrent se coller sur ses plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour, et il me semblait entendre Jésus me dire comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer, et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait, et c'était cette soif ardente qu'il me donnait comme le plus délicieux breuvage de son amour. Donc, il y a là une confiance tout à fait étonnante, puis enfin ce rapport entre cette fille de 14 ans et cet assassin, qui est resté encore en lien entre aujourd'hui Thérèse et certains prisonniers, Thérèse et certains condamnés à mort. Pensons à Jacques Fesch, qui a été condamné à mort et qui est mort le jour de la fête de Thérèse et qui s'est converti en prison. Et d'autres prisonniers encore qui sont en lien avec Thérèse. Il y a un charisme de Thérèse pour les prisonniers. Alors après ça, évidemment, elle est confortée pour entrer au Carmel. Elle dit, puisque le Seigneur m'a donné Prinsigny, il m'en donnera bien d'autres. Seulement, il y a la difficulté de son âge. Alors elle a plusieurs obstacles. Il faut qu'elle passe d'abord par la permission de son père. Ça ne sera pas trop difficile parce que M. Martin est prêt à donner toutes ses filles à Dieu. C'est ce qu'il fera d'ailleurs. Il y a toute une vie de M. Martin tout à fait passionnante de ce côté-là. Ensuite, il y a l'oncle Guérin, qui est le pharmacien, et qui a son mot à dire, parce qu'au point de vue juridique, il était subrogé tuteur de ses nièces mineures. Alors là, il est résistant pendant 3 jours. Thérèse est tout à fait désolée. Mais la vraie résistance va être celle de M. de la Troette, c'est-à-dire le supérieur du Carmel. Et lui va être absolument intraitable. Il ne veut pas de si jeune au Carmel, mais il a une parole qui va déterminer Thérèse. Il dit évidemment, si Monseigneur est d'accord, je serai d'accord. Alors Thérèse et son père, eh bien, allons voir l'évêque. Alors là aussi, hardiesse de Thérèse, qui est pourtant timide, mais qui va à Bayeux rencontrer l'abbé, le père Hugonin, l'évêque du lieu, et qui lui demande d'entrer au Carmel à 15 ans. Alors il se décide pas. Et il dit, je vous donnerai une réponse lorsque vous irez à votre pèlerinage à Rome. Alors Rome lui fait penser au pape, il n'y a plus que le pape, et donc Thérèse se dit en sortant de là, je parlerai au pape Léon XIII, et donc le 20 novembre 87, elle va intervenir auprès du pape pour lui demander d'entrer, et là non plus, le pape ne se mouillera pas, si on peut dire, et dira, vous entrerez si Dieu veut, si vos supérieurs sont d'accord. Alors là, Thérèse a été jusqu'au bout de son combat. Elle ne pouvait pas aller plus loin, comme elle dit, elle essayait de conquérir le Carmel à la pointe de l'épée, et elle entre dans l'abandon. Elle dit, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant c'est au Seigneur de jouer. Et ce n'est qu'au retour au début janvier 88 qu'elle recevra la permission d'entrée, qui va être retardée jusqu'au 9 avril, parce que c'est le carême, c'est extrêmement dur, etc. Et elle entrera donc, alors dans la troisième période de sa vie, le Carmel, le 9 avril 88. Alors là, elle entre dans un tout autre monde. Enfin, c'est toujours le même monde spirituel, mais c'est quand même un changement de vie pour une fille de 15 ans extrêmement important.
L'histoire d'un amour du Christ plus fort qu'aucune passion humaine, la petite voix de l'enfance de Sainte Thérèse de Lisieux, lecture commentée de quelques textes majeurs de Thérèse. Vous venez de suivre la première partie de la conférence de Mgr Guy Gaucher, qui a été évêque auxiliaire de Bayeux et Lisieux. Mgr Guy Gaucher qui est décédé en 2014. La semaine prochaine, même jour, même heure, vous pourrez entendre la seconde et dernière partie de cette conférence.